Ce dont je vais vous parler tout de suite, c'est de deux choses. D'une part, la façon dont on valorise les enregistrements sonores qui sont produits dans le cadre de recherche au laboratoire, au centre de documentation, en lien avec les chercheurs. Et vous, vous allez être producteur d'enregistrements sonores, vous allez créer une œuvre sonore, une carte postale sonore, puisque c'est la commande. Et du coup, je vais essayer de vous parler des questions de droit que vous allez peut-être rencontrer en collectant des sources, en produisant votre propre carte postale sonore. Alors, ce n'est pas comme si je détenais la super vérité. Ça fait 6 mois que je m'intéresse à ces questions. Donc, je vais vous rendre compte de ce que j'ai pu comprendre de mes lectures aujourd'hui. Et peut-être de vos débats, parce que peut-être que vous allez pouvoir m'apprendre aussi des choses. Alors, on va commencer par des petites anecdotes. Donc, le fond sonore au Cresson, il a bien maintenant une longue histoire. En 1979, quand Jean-François Goyard a rencontré Jean-Jacques Delettré, qui se sont mis à réfléchir sur cette question du sonore, il partait sur le terrain avec un matériel léger, donc magnétophone à bande, puis ensuite magnétophone à cassette, ça avait été une révolution, donc ça c'est peut-être le DAT, magnétophone à cassette, puis après le DAT jusqu'aux enregistreurs actuels. Donc on va dire que l'enregistrement sonore, le fait de capter, de conserver des fragments sonores, c'est quelque chose qui existe dès le départ, dès l'origine de cette équipe de recherche. Alors en 1982, donc ensuite, les recherches ont été beaucoup contractualisées, c'est-à-dire qu'ils avaient des contrats de recherche financés par le PUCA ou d'autres organismes. Et ils produisaient donc un rapport de recherche, par exemple celui-ci, qui était un rapport très important, sonorité, sociabilité, urbanité. Et en même temps que ce rapport de recherche, ils donnaient une petite cassette aussi, comme ça, parfois très jolie emballée, à leur commanditaire. Donc... Et ce mode de restitution de la recherche, donc un support écrit et une cassette, sélectionnant des fragments sonores, s'est déployé à un protocole méthodologique qu'on peut retrouver sur pas mal de recherches. Donc ces fragments sonores, ça pouvait être soit une sélection de fragments d'environnement sonore représentatif d'un espace, soit des fragments sonores qui vont pouvoir faire réécouter aux habitants qui réagissent, c'est ce protocole qui a été évoqué ce matin, de l'écoute réactivée, réagir à ces fragments pour en parler, voir quelles sont leurs sensations, ou comment ils reconnaissaient les lieux, s'ils étaient anxiogènes ou pas, etc. Donc le fond sonore aujourd'hui, c'est 50 recherches qui peuvent être des thèses, des mémoires d'étudiants, des actions de recherche contractualisées. C'est à peu près 1000 fragments sonores et 50 heures d'écoute. Ce qui, à l'échelle, par exemple, de phonothèques ou de centres d'archives départementales, est extrêmement peu. Mais en fait, comme ce sont des tout petits fragments, eh bien, en fait, chaque fois, il faut quand même les étudier. Et c'est pas si court que ça. Mais c'est peu d'heures par rapport à des enregistrements oraux, par exemple. Donc ce matin, Jean-Paul il vous a parlé d'un certain nombre de thèmes qu'il avait pu croiser lors de ses recherches, de culture sonore en chantier. Ensuite, il y a eu des études très importantes, comme aux écoutes de la ville, des enquêtes sur des villes suisses, où là, il y a eu vraiment des fiches très descriptives pour chaque enregistrement sonore, l'appel du port, cartophonie sensible d'une ville nouvelle, qui est une recherche qui a donné son nom à la carte sonore dont vous parlera Sylvie Laroche jeudi, cartophonie, le site cartophonie.fr. Et l'école d'hiver 2013, qui a été aussi la source de production. Et ces enregistrements sonores, qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, de ces cassettes, Julien, qui va être avec vous toute la semaine, a construit mon CD, là. Donc on va dire qu'à partir des années 96, le ministère de la Culture incite... évidemment, à ce qu'on mette en place des stratégies de conservation de ces supports magnétiques fragiles et qui pouvaient se détériorer et ne plus être lisibles. Donc on avait répondu vaillamment avec Julien à un appel d'offres, et comme d'habitude, on ne l'avait pas eu. Et donc, voilà, en 2003, Julien s'est chargé et a entrepris ce travail difficile de numériser les bandes magnétiques. Et il a appelé ce fonds le Cressang, et c'est aujourd'hui toujours ce fonds que l'on travaille. Donc l'objectif de la numérisation, ce n'était pas juste un acte technique, c'était l'idée de conserver, mais aussi de documenter, de contextualiser, de mettre à disposition ces fragments. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les éléments, mais un des points, évidemment, auquel on s'est attaché, c'était l'idée de comment décrire. C'est-à-dire qu'on sait décrire un livre, il y a des normes, c'est une marque ou d'autres normes de bibliothéconomie, mais comment on peut décrire un enregistrement sonore? Donc on s'est appuyé sur des travaux qui ont été menés par des phonothèques, et notamment celle de la MMSH d'Aix-en-Provence, qui avait mis au point un guide d'analyse documentaire du son inédit, en se fondant sur des formats de documentation, des formats mini-marques, et en l'adaptant et voyant comment décrire ces enregistrements sonores. Donc ensuite, on s'est dit, mais comment on va représenter tout ça dans un catalogue de bibliothèque? Comment est-ce qu'on peut faire? Donc je vais vous montrer par l'exemple. Donc on s'est dit, bon, donc là c'est la collection des enregistrements sonores. Donc on s'est dit, au départ, ils produisent un rapport, d'accord? Par exemple celui-ci, La nature au bord de la route. À ce rapport, on s'est dit, bon, on va y associer une notice décrivant l'ensemble des enregistrements sonores, en décrivant la démarche des chercheurs, pourquoi ils ont enregistré ces fragments. Et ensuite, pour chaque enregistrement sonore, que vous pouvez voir ici, en dessous, donc entre l'Isère, la rocade, etc. Chaque fragment sonore qui est nommé par le chercheur, on va le décrire spécifiquement comme étant une unité documentaire à part. Donc si on revient sur ce schéma-là, ça veut dire qu'on a une notice globale d'un support textuel, que ce soit un livre, un rapport, n'importe quoi, une notice d'ensemble qui va décrire une démarche, qui va décrire l'ensemble des fragments, et ensuite chaque item sonore qui va être décrit. Et ça, c'est issu la démarche des archivistes, qui, quand elles collectent des fonds, donc elles décrivent des fonds, comme nous on aurait un seul fond, le fonds Cresson, elles décrivent ensuite des corpus ou des collections, et dans chaque collection il va y avoir un item sonore. Donc on a essayé en fait d'interpréter ce qui pouvait être fait sur l'archive de la parole pour le transcrire pour l'environnement sonore. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour l'école d'hiver l'année dernière? Donc il n'y a pas eu de support à proprement parler, de rapport ou d'écrit sur cette école d'hiver. Mais il y a eu toute une démarche très explicite qui était décrite pour chaque atelier. Et donc, on a établi avec les responsables d'atelier, c'est-à-dire il y avait déjà Noah, Jean-Luc et aussi d'autres groupes de personnes qui ne sont pas là cette année, qui ont décrit l'intention de chaque atelier au cours desquels il y a eu la production d'enregistrement sonore. Et ensuite, pour chaque fragment sonore qui a été produit, il y a eu aussi des vidéos cette année-là, eh bien, on a produit cette notice en faisant un retour aussi aux personnes qui ont enregistré ce fragment. Et c'est lors de la journée de restitution, comme vendredi, que les gens ont exprimé ce qu'ils ont voulu faire en produisant ce fragment. On avait pris des notes, on a fait une écriture, on la rend à l'auteur, qui s'en pense, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils ont voulu faire, et on le remet en scène. Donc ça c'était, on va revenir, il faut que je repasse un diapo.
Oui, c'est ça.
En bas ou tout en bas?
C'est ça, là, non, là.
Non, tout en bas, c'est petit.
Ça, à côté, là. Alors évidemment, si vous voulez, une notice dans un catalogue de bibliothèque, on va dire qu'il y a une audience phénoménale, donc... Ce qui se passe dans cette chaîne de valorisation des enregistrements sonores, c'est qu'ensuite, on va dire, on utilise donc le carnet de l'équipe, donc le Cresson Veille Recherche, que peut-être vous connaissez, pour écrire dans un billet, de raconter ce qui s'est passé, puisque le carnet de recherche, son idée, c'est de raconter la recherche en train de se faire. On raconte ce qui se passe, on illustre, on rencontre. Et tout ça, c'est sur la plateforme Hypothèse des carnets en sciences humaines. Et donc, ça évidemment, ça accroît l'audience du travail. Donc, l'idée, évidemment, c'est toujours ça, de trouver un lectorat et de faire connaître votre travail. Donc, ce qu'on vous propose, vous avez sûrement compris, c'est évidemment d'intégrer vos cartes postales sonores dans ce fonds. Mais avant, parce que l'année dernière, on n'avait pas du tout abordé ces questions de droit, et je remercie Cécile voilà, peut-être de me permettre cette année de commencer à l'aborder avec vous, on va essayer de voir à quel problème de droit vous allez vous confronter. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas ce que vous allez produire, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, peut-être qu'en vous promenant, en auscultant cette architecture, vous allez vous dire, tiens, je vais peut-être collecter la petite parole d'un étudiant, je vais aller au bar, tiens, il joue de la musique au bar parce qu'il y a un piano, peut-être enregistrer un fragment sonore, vous allez enregistrer peut-être des scènes de cours ou des choses comme ça. Et en enregistrant des éléments-là, vous allez rencontrer ou pas différents droits, des droits d'auteur, des droits voisins par rapport, par exemple, à l'interprétation de la musique. Vous allez produire votre carte postale à deux, à trois, en collaboration avec votre responsable d'atelier. Et donc, vous allez vous-même être auteur de votre carte postale. Et puis, je vais vous demander en plus de me la déposer. Donc, évidemment, il va y avoir une autorisation pour avoir de votre part, pour nous, de valoriser votre travail dans le schéma que je vous ai explicité. Alors, pas vous faire un cours sur les droits d'auteur, pas de panique, c'est 2h moins 10, j'ai encore 10 minutes. Donc, bon, c'est juste pour vous dire que globalement, il y a deux droits associés aux œuvres. C'est le droit moral, c'est pour ça que vous citez vos références biblio quand vous écrivez un article. Et c'est le droit patrimonial qui, lui, confère à l'auteur la capacité de reproduire, de représenter, de traduire, de numériser. Mais ces droits patrimoniaux-là sont cessibles à un organisme comme nous, par exemple, et durent un certain temps, 70 ans après la mort de l'auteur, puis ensuite, ça tombe dans le domaine public, l'œuvre tombe dans le domaine public et tout le monde peut s'en saisir, sans toutefois oublier de citer toujours la personne. Donc, comment vous allez utiliser un témoignage oral? Donc là, je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir justement ce que disent les personnes qui se penchent sur ces questions dans le cadre des archives orales. Et là, ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte que tout est question de la teneur du contenu. Alors, si vous rencontrez une personne dans un couloir de l'école qui vous dit « Oui, il fait beau aujourd'hui », ça, on peut considérer que c'est de l'ordre du témoignage banal et peu personnalisé. Et si vous enregistrez ces éléments-là et que vous voulez les insérer dans votre carte postale sonore, eh bien, la personne est informateur sans droit. Vous avez tout à fait le droit, il n'y a pas à se prendre la tête plus que ça. Si vous, par contre, vous créez un véritable échange, où il va y avoir un transfert de contenu avec une personne et qu'il y a des choses beaucoup plus construites et beaucoup plus fortes, ce qui est peu probable dans la mesure où vous allez faire un fragment peut-être de 3 minutes, vous n'allez pas mettre peut-être 2-3 minutes d'un prochain, mais bon, je ne sais pas. À ce moment-là, il y a des questions effectivement qu'il ne faut pas éluder, qui sont de l'ordre de, ben oui, la personne qui aura parlé, qui aura fait des choses, elle est auteur de ses propos. Donc du coup, pas d'affolement, chaque fois que vous allez parler à quelqu'un, vous n'allez pas lui demander de vous céder un contrat, d'écrire un contrat, de vous céder ses droits, etc. Mais c'est à juger justement du contenu de la personne. Je vous parlerai de ce que je vous donnerai après. Est-ce que vous allez pouvoir utiliser des musiques enregistrées? Alors, on peut imaginer que comme vous êtes dans le cadre d'une formation, on peut dire sous couvert universitaire, dans le cadre du droit français, il y a une exception à des fins pédagogiques et de recherche pour l'utilisation d'extraits. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, mettre en musique de fond de tout votre fragment de 3 minutes une musique qui aujourd'hui a été produite récemment et qui est déposée à la SACEM. Ça, c'est pas possible. Mais vous pouvez insérer des extraits, sachant que ça ne doit pas excéder 10% de l'œuvre. Donc c'est un peu compliqué, mais bon voilà. Après, moi je pense que tout ça, ça veut dire que voilà ce qui existe, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui et comment vous le prenez plus ou moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'étudiant du bar, s'il est en train de jouer une musique et qui est, je sais pas moi, du tout, et que vous ne pouvez pas l'intégrer en fond sonore de votre carte postale, puisque l'accord de l'interprète ne serait pas suffisant et que la musique ne serait pas tombée dans le domaine public. Alors, qui est l'auteur de cette carte postale sonore? Ben, donc, c'est bien une œuvre, ça, on le prend comme postulat de départ. Et donc, selon si vous allez être seul, à plusieurs, et l'interaction que vous allez avoir aussi avec votre responsable de groupe, l'année dernière, on avait supposé que le responsable de l'atelier avait une forte teneur dans la production et donc il avait été rajouté en tant qu'auteur pour chaque production. Et si vous intégrez des passages de l'oral, et bien ça peut être une œuvre composite parce qu'elle peut être liée à un témoignage oral. Donc du coup, et bien, donc nous, on a besoin de votre accord pour nous autoriser à insérer cette production dans la chaîne de valorisation dont je vous ai parlé. Et heureusement, il existe aujourd'hui des façons de se libérer un peu de ces contraintes du droit d'auteur. non pas de les nier, mais au contraire de les aménager et d'anticiper les utilisations. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auteurs ont tout à fait la liberté, c'est pas parce que vous produisez une œuvre qu'elle va rester là, figée, que vous n'allez rien en faire, non, c'est tout à fait la possibilité, vous l'avez sûrement déjà rencontré, la liberté de mettre à disposition leur production en utilisant des licences, par exemple les licences Creative Commons, qui autorisent d'emblée certains usages. Donc ces petits pictogrammes que peut-être vous connaissez déjà. Donc vous pouvez dire que votre carte postale sonore, eh bien, vous allez dire que vous voulez juste qu'on dise que c'est vous qui l'avez faite. Vous pouvez dire que vous ne voudriez pas qu'elle soit modifiée si elle était réutilisée dans un autre contexte. Vous pouvez dire que vous ne voulez pas d'utilisation commerciale, mais que si quelqu'un en fait ce qu'il en veut, eh bien, il le partage dans les mêmes conditions. Donc, en résumé, attention à ce que vous intégrez dans votre carte postale. Je vais vous demander, pour essayer de nous aider dans ce traitement des enregistrements sonores, d'essayer de remplir une fiche descriptive qui est à l'image, si vous voulez, de l'ensemble des champs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc après, ça peut être sur fichier, comme vous voulez, ce qui est le plus facile pour vous. Je pense que fichier numérique,
c'est l'idéal.
Voilà. Je le transmettrai aux organisateurs qui les envoient par mail. Si vous avez besoin, ou si ça vous intéresse, d'avoir un contrat, je vous ai imprimé un contrat qui, dans le cadre de votre travail, vous pouvez rencontrer ce genre d'usage. Vous avez un contrat entre le collecteur, c'est-à-dire vous qui collectez des sources sonores, et l'informateur, c'est-à-dire par exemple le témoignage oral que vous recueillez. Et ensuite, donc ça c'est si vous en avez besoin. Et ensuite, ça, c'est un petit formulaire qu'on avait fait signer aux personnes l'année dernière aussi, mais genre le vendredi soir, quand tout le monde est épuisé. Donc, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc là, l'idée, voilà, c'est que je voulais un peu présenter, vous dire qu'est-ce que vous avez fait, et est-ce que vous nous autorisez, et quelle est la licence Creative Commons que vous voulez qu'on associe au fichier qu'on mettra en ligne, qu'on conservera. Je vous ai mis un petit lien si vous voulez rebondir sur ces questions, si elles évoquent quelque chose pour vous. Et voilà.
Merci François, c'est super clair. Pour moi en tout cas. Pas pour moi. Est-ce que vous avez des questions sur ces petits points techniques, mais en même temps qui a de l'importance aussi pour les créateurs. Enfin, moi je trouve que c'est tout à fait. Il nous semblait être important. D'arriver à cette étape-là, c'est vrai qu'on le fait rarement, je trouve, et je trouve que ça fait partie du boulot aussi, je pense, dans nos travaux respectifs, de finalement. Ouais, c'est une sorte de. Enfin, je ne sais plus, je
ne
trouve plus le mot.
Bah,
de respect, en fait, aussi.
Bah, d'anticiper sa valorisation, de l'intégrer dans sa démarche aussi. Parce que c'est vrai que juste de nommer ce que vous allez créer. Bon, après, je veux dire, créer un fichier, nommer le fichier, tout ça, peu importe, on le ferait, quoi, c'est pas le problème. Mais de nommer un fichier, de bien collecter vos noms, de bien les associer à ce fichier-là. Ça permet un traitement après derrière, de sentir que les droits d'auteur sont respectés, ben ça permet qu'on ne se pose pas de questions pour le mettre en ligne. Et puis aussi de revenir vers vous quand on aura fait ce travail-là. Quoi. Donc c'est un échange aussi.
Je crois qu'on a tout dit.
Oui, tout dit. Parce que la machine après s'est arrêtée.